Fréquence Paris Pluriel, le 106.3 pour une nouvelle émission des Périphériques vous parle de 18h à 19h.
La sécurité alimentaire, la sécurité routière. Vous avez déjà vu un métro faire demi-tour ?
J'accueille pour cette émission Elsa Lévy, qui vient de publier « Jeux de société » aux éditions de l'Esprit Frappeur.
J'ai 25 ans, j'ai 32 ans et j'ai aussi 28 ans parce que je viens de fêter mes 23 ans. Je fais 1m73, je fais 1m78, je fais 1m65, là je fais 1m70. Je sors du cours Florent, je viens de faire le conservatoire, je suis autodidacte, j'ai un doctorat de physique, j'ai jamais fait l'école, je fume beaucoup, je sors peu, je fume pas. Je suis issue d'une famille modeste, je viens d'une famille très bourgeoise, je viens de la DAS, je suis baptisée catholique et je suis pratiquante. Je suis juive pratiquante, j'ai pas de religion. J'adore voyager, j'ai besoin de voyager. J'aime pas voyager, je suis bien chez moi, je regarde des films. J'aime beaucoup le cinéma français, mais le cinéma français, je n'accroche pas. Je crois que je ne sais plus trop en fait. Je suis comédienne. Non, je suis pas comédienne.
Chômeur de la République, je ne suis pas de mon propre chef, le chef de la majorité ni de la minorité. Je suis un numéro. Moi, chômeur de la République, je ne suis pas un numéro de loto ni un numéro de téléphone, mais un mauvais numéro. Un numéro à 7 chiffres qui ne peut pas faire son numéro, mais seulement taper sur le 3949, partiellement gratuit, puisque le fixe me taxe.
Donc, je ne sais pas comment vous qualifiez ça, parce que, bien évidemment, ayant lu votre livre, j'imagine que vous redoutez qu'on vous coche dans une case au niveau de vos qualités. J'ai en tête le célèbre roman de Robert Musil qui s'appelle « L'homme sans qualité ». Comment ne faire rien de particulier dans sa vie pour rester ouvert à toutes les opportunités et finalement rester dans une certaine forme d'anonymat ou d'indétermination professionnelle. Situation, bien évidemment, Elsa, qui est totalement invivable, mais qui vaut la peine d'être tentée.
C'est bien résumé.
C'est une émission littéraire, mais je n'ai pas la même méthodologie d'approche que Bernard Pivot. Donc j'éviterai les questions du style « Ah, c'est autobiographique », etc., etc. Je crois savoir que, sachant l'insolence de votre ton tout au long de l'ouvrage, je ne vais pas m'emmêler les pieds dans le tapis en posant cette question justement de l'autobiographie. Je crois que c'est un peu un mix d'invention proprement littéraire, étayé à la lumière de situations cocasses que vous avez vécu dans ce qu'on appelle le monde du travail, qui est un monde parallèle au nôtre.
Oui, au moins parallèle.
Le titre de l'ouvrage, c'est « Jeux de société ». Alors, bien évidemment, c'est un jeu de mots. Vous-même, vous vous présentez comme le jeu. Vous-même, écrivant cet ouvrage-là, c'est comme si vous aviez mis à distance ce que vous décriviez peut-être de situations que vous aviez traversées, en sachant que, est-ce que c'était vous qui les avez traversées? Est-ce que c'était une autre? C'est-à-dire qui s'était mis au jeu de jouer le jeu qu'on veut lui faire jouer et en même temps qui n'est pas dupe de ça. Enfin, et dans les romans subjectifs, on voit des personnages qui disent « je commence », voilà. Vous, c'est le jeu majuscule et « je » comme si c'était quelque chose qui vous appartenait pas, qui était en dehors de vous, quoi.
Oui, c'est un jeu à la troisième personne du singulier, donc qui devient une personne à part entière. Il y a plein de raisons qui m'ont poussé à écrire ce jeu à la troisième personne et non pas au « je suis » mais « je est ». Je est toujours quelqu'un d'autre, en même temps il est ce que je suis. Déjà d'une part pour ne pas être dans de l'autofiction pure, qui est un moyen très répandu d'écriture aujourd'hui, mais essayer de dépasser ça et de ne pas parler uniquement de quelque chose qui me revient par l'expérience, par un vécu, mais de quelque chose qui s'élargit à, je l'espère, plus d'expériences de vie, plus de personnes, plus d'individus, sans prétendre être dans un jeu universel. Mais l'idée, c'était de pouvoir permettre une identification à un jeu chacun, un jeu collectif. Et en même temps, j'avais besoin de, moi, m'extirper de mes expériences pour pouvoir parler non pas de mon autobiographie et de ce que j'ai vécu, parce que ce ne serait pas du tout le même récit, mais de parler d'expériences bien ponctuelles. C'est pourquoi, lorsque « je » n'a pas d'emploi, il s'appelle « je » et il est la troisième personne du singulier, et c'est un « il ». Et dès lors que « je » intègre un contrat social, donc dès lors qu'il est dans le « je » social, il devient la caissière. Donc le chapitre de la caissière, c'est la caissière. Le chapitre de la vendeuse, c'est une vendeuse. L'intermittente, ce n'est plus « je ». Et comme si le « je » se perdait, le « je » J-E, s'effaçait dès lors qu'il est dans un métier et qu'il retrouve son essence quand il est hors « jeu », lorsqu'il est sans emploi, lorsqu'il est entre deux emplois, lorsqu'il est sans charte, sans patron. Le monde du travail est tellement violent, est tellement dur, est tellement pas là pour l'humain, mais pour autre chose, pour du rendement, pour maximiser la rentabilité et plein de raisons tout à fait que je ne jugerais pas, mais qui ne sont pas là pour l'épanouissement, ni la valorisation de soi, la quête de soi, l'envie de se grandir, de s'élever. Donc le fait de le mettre en désincarnation, c'est parce qu'il me semble que lorsqu'on est dans un emploi, il y a une partie de nous qui est désincarnée. Et donc ce personnage vit sa désincarnation au travers de plusieurs contrats sociaux, du CDI au CDD, intérimaire, intermittent, enfin tout ce qui existe, de manière désincarnée. Et c'est pour ça que ce personnage, l'idée c'est aussi en filigrane de comprendre que il n'a pas la carrure d'un personnage principal de roman, parce que c'est un personnage secondaire et c'est une existence secondaire.
Votre livre rentre pas dans une case qui serait celle, par exemple, du roman, avec une structure narrative à rebondissement.
Pour avoir fréquenté des éditeurs donc, de romans plus classiques, ce qu'on reprochait à mon personnage, je, c'est de manquer de sentiments, d'émotions, de ne pas faire pleurer, de ne pas émouvoir, et qu'il fallait un vecteur émotion obligatoire pour que le sujet, le propos puisse être compris par des personnes qui n'auraient pas été eux-mêmes dans des situations qui les fassent intrinsèquement être touchées directement par l'histoire. Et donc ça m'a un peu étonnée de me dire il faut toujours passer par l'émotion. Donc ce personnage n'est absolument pas émouvant, c'est tout le propos du truc. C'est non, on va pas pleurer, on va pas le plaindre, c'est juste un constat social. Les émotions, c'est pour ailleurs.
Ouais, mais peut-être que l'éditeur, lui, qui voulait se mettre en empathie avec ses acheteurs potentiels de bouquins, disait, tiens, qu'est-ce qui émeut les gens aujourd'hui? Voilà, ouais. Ce qui les émeut, il le savait déjà. Il vous impose peut-être
mais
sa
après,
propre conception de l'émotion.
Hein. C'est-à-dire que regardez au cinéma, peu importe la discipline, on a besoin d'une émotion, on a besoin de s'attacher à un personnage, de s'identifier à lui pour comprendre son histoire et pour tout d'un coup être ému par une histoire qui va se passer au fin fond de l'Afrique alors qu'on n'en a jamais rien eu à faire. Ah bah lui, le personnage m'a ému, la façon dont le récit a été amené m'a amené l'émotion, donc j'ai vécu avec lui, donc maintenant je comprends cette cause. Et donc là, c'est un problème, il me semble, pour lequel on n'a pas besoin de pleurer, puisqu'il concerne tellement de gens. Aujourd'hui, en France, il n'y a pas besoin d'aller dans le tiers-monde pour vivre des choses assez inacceptables dans le monde du travail. Donc, rajouter des sentiments et des pleurs ne me semblait pas justifié. Les besoins du personnage jeu sont tout autres. Peu importe les besoins, ça peut être des petits boulots pour certains ou des métiers provisoires. Et l'idée, là, c'est de dire que c'est quand même le cas de figure, le métier, le quotidien de millions de personnes, d'être caissière.
D'ailleurs, vous décrivez très très bien l'activité de travail, justement.
Cet après-midi-là, enfin, il semblerait que ce soit une après-midi. Après-midi est comme je, à la fois il, à la fois elle. Donc, on suppose que c'est l'après-midi, puisqu'il n'y a pas une fenêtre pour avoir une idée du temps dehors ou de l'heure. Ici, le temps ne s'est même pas arrêté. Il n'a jamais essayé de s'écouler. En tout cas, c'est sûr, c'est aux alentours de Noël. Pas besoin de sortir pour être au courant. La jeune femme est donc assise sur sa chaise haute, enfin confinée dans un espace encore plus étroit que les WC d'une aire d'autoroute. Un gilet en guise d'uniforme, et elle bippe. Elle bippe, sans arrêt possible, depuis environ 5 heures. Elle attend sa pause de 19 minutes 59 secondes, de 17h53. Pause extrêmement bien répartie sur la journée, puisqu'elle pourra terminer cette journée à 18h45, où elle va enfin pouvoir gober toute seule un sandwich pas cher et dégueulasse. En attendant, elle bippe. Arrive un monsieur d'une cinquantaine d'années, sponsorisé par Nike, les cheveux coupés façon Playmobil, avec sa fille à tresse d'environ 8 ans. L'enfant pleure et tape des pieds. « Je ne veux pas de ces livres, je veux le film de Pocahontas. » « Une autre fois, » lui répond son père légèrement agacé. Sous les regards inquisiteurs de quelques clients, l'homme commence à être gêné par les caprices de sa fille. Il se baisse pour se mettre à sa hauteur, et lui glisse discrètement, mais pas suffisamment. « Si tu ne veux pas finir comme la jeune femme, » en pointant la caissière du doigt, « il vaut mieux que tu lises et réussisses à l'école. » La petite cesse de pleurer et scrute la jeune femme avec un drôle de regard. « Comment ça s'appelle déjà ?» La reine des oies passe rapidement derrière la caisse et lui souffle à l'oreille. « Ça s'appelle le mépris. Tu ne connais pas ? Habitue-toi. » Éloi s'en va. Ah oui, le mépris. La caissière fait payer ses cons, puis ils partent comme ils sont venus, comme des cons.
Ça ne choque pas grand monde. Et tous ces métiers, donc, dont le recrutement se fait par l'image, hein, parce qu'il faut pour beaucoup de métiers, avoir une certaine apparence, un certain physique. Aujourd'hui, il faut avoir des diplômes pour être caissière. Enfin, il y a aussi ce que veut la maison derrière, c'est-à-dire voilà, un restaurant aura sa politique, sa charte, qui veut des gens beaux, qui veut des gens qui ont du fric, qui veut des gens de cette... Et chaque restaurant ou bar, et c'est normal, ont une sorte de caste dans laquelle... ils estiment que leur clientèle doit ressembler à une idée qu'ils se sont fait, comme ça, de l'apparence que doit renvoyer leur lieu privé. Mais en même temps, derrière, il y a des humains qui doivent jouer ce jeu et qui sont... donc, dans l'exemple de l'hôtesse, c'est quand même de l'abnégation et de l'aliénation à l'état pur que de pouvoir correspondre à cette politique-là.
Gina, le sosie de Cindy Crawford, sans le grain de beauté, la bouche refaite comme une oie siliconée, habillée en tenue de soirée à 11h du matin, explique les règles très rapidement. La formation dure environ 3 minutes. Alors, les gens beaux, tu les places au centre. Les hommes de dos, les femmes face à l'entrée. C'est plus agréable à regarder. Les gens moins beaux, tu les mets en périphérie. Et les gens encore moins beaux, près des toilettes. Et les gros, les moches, les vieux et les touristes. Tu leur dis que c'est réservé. Dernière chose, beaux ou moches, s'ils sont célèbres ou friqués, évidemment tu les mets au centre. Souvent, tu vas te faire insulter par ceux que tu refuses. On va te traiter de connasse et tout. Mais si tu veux garder ta place, t'as pas le choix. La directrice de l'établissement, un faux air de Mia Jovovich, mais ravagé, qui s'apprête à monter les marches de Cannes dans la foulée, arrive de nulle part. Sans se présenter, parce qu'on doit savoir qui est là, directrice de façon innée, d'ailleurs, la base même de cette fonction, est de ne pas avoir à se présenter. Les autres le font à leur place, normalement. Elle regarde la jeune hôtesse et lui scanne le corps au rayon X. L'air insatisfait, la directrice s'approche de Gina et lui murmure des choses à l'oreille que la nouvelle hôtesse ne peut entendre. Cela dure plusieurs minutes. Puis, toujours sans daigner regarder la nouvelle hôtesse dans les yeux, la directrice repart et Gina, bienveillante, sourit. « Ta robe n'est pas assez courte et tes talons pas assez hauts. Pour ce soir, ce serait bien que tu changes. Bref, j'en étais où ?» Moi, chômeur de la République, je ne traite pas le Premier ministre de collaborateur. Je ne traite d'ailleurs personne de rien. J'ai trop peu de voix. Je suis voué à me taire et à laisser parler les chiffres. Moi, chômeur de la République, je ne participe pas à des collectes de fonds pour mon propre parti. Je me contente de toucher le fond avec toutes mes parties.
Mais en même temps, derrière, il y a des humains qui doivent jouer ce jeu et qui sont, donc dans l'exemple de l'hôtesse, c'est quand même de l'abnégation et de l'aliénation à l'état pur que de pouvoir correspondre à cette politique-là de recrutement de l'hôtesse et derrière de recrutement du client. C'est-à-dire qu'il faut accepter quand même de refuser des gens parce qu'ils sont moches. Et moi, le peu d'expérience que j'ai eu là-dedans m'a posé un réel problème d'éthique. Et de valeur, donc j'ai tenu 2 heures dans cet emploi, mais il y a des personnes qui y arrivent et je n'ai aucun jugement sur elles, au contraire je respecte, mais c'est une vraie force que de se dire je vais payer mon loyer en foutant des gens à la porte parce qu'ils sont moches ou parce qu'ils ont des têtes de touristes et je vais placer dans un carré VIP des gens parce qu'ils sont beaux.
La référence constante au jeu de loi, c'est... Vous y avez joué, non ? Quand vous étiez plus...
Le vrai jeu, celui ouais, avec le jeu de loi, la petite loi et tout. Oui, j'y ai joué, bien sûr.
D'accord.
Je trouve ça très drôle.
D'accord.
C'est passionnant, le jeu de loi.
Alors, dans le roman, c'est le jeu de loi, mais correspond...
Version taille réelle, c'est un jeu de t'es la réalité. Donc, on est chacun le réel de notre vie. Et j'ai eu le sentiment, mais ça, c'est venu très tard, à force d'être en quête de ma propre identité et de mon chemin et de trouver un moyen de gagner de l'argent... sans bosser 50 heures par semaine dans la contrainte, j'ai eu le sentiment à un moment donné d'être dans un énorme jeu dans lequel tout le monde jouait et que moi j'étais toujours dans un décalage où je voyais les cases, je voyais les cages, je voyais une sorte de télé-réalité réelle, donc la télé-réalité d'où les caméras, enfin d'être constamment dans quelque chose de très faux. Et donc l'idée du jeu de loi est venue parce que je l'ai vu. J'ai vu un jeu de loi, alors je ne veux pas avoir l'air d'une folle, mais j'ai réellement vu des cases, j'ai réellement vu les pions, j'ai réellement vu ceux qui donnent la teneur du jeu, ceux qui maîtrisent les cartes, ceux qui redistribuent, comment les cartes sont mal redistribuées. Et tout ça, enfin, c'est pas juste pour faire une métaphore ludique du jeu, parce que le jeu, on peut l'explorer sous toutes ses formes, dans plein de dimensions. Mais le jeu de loi, je trouve que c'est vraiment... parce que le loi est un personnage important dans le livre, c'est vraiment ce que j'ai eu le sentiment de vivre, voilà, et de voir les autres vivre également, c'est-à-dire de passer dans des cases qui ne leur correspondent jamais, mais qui sont obligatoires.
Il y a un ami à moi, il y a quelques jours, je lui parlais d'un rôle que j'avais fait, il me dit, hormis le rôle que tu as fait ce soir, tu es en train de jouer quel rôle, là? Tu vois? Je lui dis, c'est pertinent, ouais. Et j'avais deux exemples, notamment un exemple donné par... le fameux exemple de Sartre qui dit le garçon de café, ben, il joue au garçon de café. C'est-à-dire que son comportement au quotidien, il s'ajuste à l'idée de ce que devrait être un garçon de café finalement stéréotypal. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on a toujours, dans un métier, on a une sorte de doublure sociale qu'on appelle son métier. Enfin, pas son métier, le métier, c'est un... enfin son travail, on dira.
Ouais.
Et puis après, il y a un sociologue américain qui s'appelle Goffman, qui avait écrit justement un bouquin en disant la présentation de soi. Quoi. Parce qu'on joue un rôle, parce qu'on a un travail, parce qu'on a une fonction à remplir, on donne l'image de celui qui va s'acquitter correctement de sa tâche. Et tout ça se fabrique comme un artifice. Hein, comme lorsque vous le soulignez dans votre ouvrage, il faut faire semblant d'être occupé. Même si on est dans la vacuité la plus totale intérieurement. Par rapport à... voilà. Et donc, il appelait ça la présentation de soi en disant, mais en même temps, c'est pas simplement une aliénation. C'est une conscience presque préservatrice aussi du fait qu'on sait qu'on est en train de jouer un rôle, et parce qu'on sait qu'on est en train de jouer un rôle et qu'on colle pas non plus au rôle, ben, on a une certaine forme de distance par rapport à soi-même, par rapport à ce qu'on est en train de faire, et on a une forme de duplicité aussi qui peut nous préserver. Et donc, c'est la notion de rôle de ce point de vue-là, elle est intéressante, mais en même temps, elle est assez alambiquée parce qu'elle renvoie à une complexité humaine. On joue le jeu, mais en même temps, on n'est pas dupe. Donc,
voilà, mais c'est ne jamais être dupe de l'essentiel. C'est d'en être conscient.
C'est pas donné à tout le monde, peut-être, non ?
Bah, moi, je suis personne, encore une fois, pour en juger, mais j'ai pas le sentiment, non, qu'on soit suffisamment conscient de nos rôles sociaux et de l'écart entre notre réel, d'où le questionnement de ce personnage-jeu, de savoir ce qu'il est par rapport à ce qu'il fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vous demande rapidement de vous présenter quand vous rencontrez quelqu'un, quand... peu importe le contexte, hein, ça peut être un recrutement pour un travail, ça peut être une rencontre amicale, autre. Qui es-tu ? En réalité, on demande que fais-tu dans la vie ? Tu fais quoi ? Donc l'acte de faire devient notre identité. Et donc le rôle social qu'on se donne, que ce soit le serveur ou peu importe, ça devient son identité. Sauf que c'est des identités biaisées parce que nous ne sommes pas ce que nous faisons. Nous sommes bien autre chose, quelque chose de bien plus complexe. Et donc l'idée de se réduire à un rôle social... Ça, c'est déprimant parce qu'aujourd'hui, en France, je ne vais pas parler d'autres pays pour comparer. Moi, je parle de la France parce que je pense que tout le monde qui écoutera ça connaît. En France, on ne peut pas faire ce dont j'essayais de témoigner dans ce livre. On ne peut pas être, par exemple, peintre, auteur et comédienne. C'est trois casquettes. C'est donc finalement, vous ne faites rien, quoi. Concrètement. Donc, le fait d'avoir plusieurs activités et donc plusieurs facettes identitaires est une sorte de... Voilà, c'est que finalement, il n'y a pas grand-chose derrière ou ça doit être un peu...
Dilettante.
Ouais, il y a quelque chose de pas sérieux. Et c'est ça qui est fou. Donc, finalement, on doit se cantonner pour être socialement crédible à un rôle. Et c'est ça que j'essaye aussi d'expliquer, d'où les cases. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être dans deux cases en même temps parce que c'est incompatible. Même si aujourd'hui, pour parler de l'emploi, dans la précarité dans laquelle on vit, on a tous au moins deux rôles. Enfin tous, une grande partie des personnes ont deux rôles parce qu'on est obligé, pour financièrement s'en sortir, de cumuler des emplois, de cumuler des... Voilà, soit du travail au noir, soit deux vrais emplois déclarés. Mais il y a vraiment un cumul des tâches. Et donc, on est dans déjà une duplicité de rôles, mais en réalité, nous sommes bien plus que deux rôles. Et on est plus qu'un rôle. Donc après, il faut aller chercher qu'est-ce qu'on est réellement hors rentabilité sociale. Qu'est-ce que je suis quand je ne suis pas dans mon métier ?
Il y a toute une scène qui est très drôle sur jeu figurante, devant, dans un casting... se livrer un exercice de style qui consiste à se présenter d'une manière lapidaire. Hein. Et donc, exercice redoutable.
Alors qu'elle vient d'enchaîner 10 ans de représentation quand même. Parce qu'après 10 ans, donc, à jouer le rôle de la vendeuse, la serveuse, la vendeuse de pop-corn, enfin tous ces métiers dont on parlait plus tôt, elle est incapable de se présenter. Alors qu'elle est dans une représentation sociale absolue et dans laquelle elle est finalement assez douée parce que elle, la plupart du temps, elle ne se fait pas virer hein, de ses emplois. Elle part parce que financièrement, ça va pas et le ratio temps-argent n'est jamais le bon. Mais c'est quand même ça qui est fou, d'où le qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on est. On peut être dans des rôles sociaux et être très bon dedans sans jamais, en passant toujours à côté de soi, sans jamais savoir réellement qui on est une fois qu'on enlève notre costume, parce qu'on est tous des comédiens... professionnels, hein, dans les métiers, dans les bureaux, il y a quand même que des gens qui jouent un jeu de rôle. Mais qui sont-ils ?
Ce jeu qu'est-ce qu'il advient de moi à travers ce jeu-là. C'est comme si elle était là dans une posture d'un extraterrestre, hein, la stratégie de l'extraterrestre. J'aime beaucoup stylistiquement quand vous écrivez par rapport à ça. Il observe des comportements qui sont absurdes. Et ça se ressent beaucoup au niveau de la truculence du langage, quoi. Une espèce d'invention de langage pour montrer finalement l'inanité de choses qui pourtant représentent pour les individus quelque chose de socialement incontournable. C'est comme si la dévalorisation de soi suivait de près la valorisation de soi, en adoptant des attitudes qui vous sont contraires.
Oui, il y a de ça. Et comment, dans une réussite sociale, je me sens, moi, en réussite personnelle, et inversement. C'est-à-dire, est-ce que ma réussite sociale m'a épanouie et me rend heureuse, ou est-ce que c'est l'inverse ? Donc là, le personnage va, lui, se retrouver heureux au moment où il est dans une classification sociale des plus basses, c'est-à-dire au RSA, en travaillant au Black. Voilà. Et pourtant, c'est le premier moment de sa vie où il a l'impression de palper un petit peu ce que c'est que la joie d'être, tout simplement, être pour être. Et c'est ça l'absurde, c'est-à-dire que cette descente, parce que c'est quand même une sorte de descente aux enfers où les contrats sont de plus en plus précaires et les emplois de moins en moins intéressants, vont dans le sens de la chute libre, alors qu'il y a une sorte d'élévation personnelle qui se fait dans une courbe inverse. Donc c'est moi ça qui m'a le plus étonnée. C'est que dans ce système, et ça c'est vraiment une expérience personnelle, d'être de plus en plus démunie m'a enrichie. Ça peut paraître très, très Gandhi ou très bisounours, ou enfin très spirituel, peu importe, mais c'est une réalité. C'est-à-dire que la dématérialisation autour de l'environnement a donné à ma vie, mon parcours, une sorte de richesse que j'avais trouvée dans aucune rémunération, aucune fiche de salaire, aucune... comment on appelle ça, promotion.
J'accueille pour cette émission Elsa Lévy, qui vient de publier « Jeux de société » aux éditions de l'Esprit Frappeur.
Donner son temps, donner son énergie et son âme, donc, pour une rémunération qui reste assez médiocre la plupart du temps. C'est-à-dire que lorsqu'on a un emploi qui nous demande énormément de présence, de responsabilité, bah derrière, c'est qu'il n'y a aucun temps personnel, une vie privée probablement, qui subit les conséquences de cela. Et donc, l'équilibre hein, entre épanouissement personnel, vie privée, existence à part entière et travail est incompatible. Parce que sinon, on est dans quelque chose où l'on est libre, on vit pleinement, on n'a rien pour subvenir, donc on ne vit plus. On entre dans l'autre nécessité, qui est celle de survivre au quotidien, qui est riche et enrichissante, hein, mais qui est trop désagréable pour vivre... enfin, en tout cas, dans une société occidentale, la société n'est pas adaptée à des vies précaires.
Le livre décrit beaucoup les dispositifs qui sont les cases du jeu de loi, finalement. Du RSA, du CDD, du CDI, du travail au Black. Vous décrivez de quoi est fait, justement, toute cette précarité aujourd'hui. Lorsqu'il faut avoir, pour avoir un logement, une fiche de paye égale à trois fois le montant du loyer, y compris l'ouverture d'un compte en banque qui nécessite le fait d'avoir un logement. Comme s'il y avait une espèce de consécution de cercles vicieux qui entraînent le cycle de la précarisation, voire lorsque la précarisation flirte avec la misère.
En plus de ça, il y a une sorte d'inconscient collectif qui laisse penser qu'il y a un assistanat et que c'est un pays d'assistés et que ces dispositifs-là ne devraient même pas exister parce qu'ils sont néfastes à la production, à la rentabilité, à l'économie, alors que c'est tout l'inverse, parce que c'est une perte réelle du capital humain et des richesses individuelles qui pourraient devenir collectives. Mais en plus de ça, donc, les personnes allocataires du RSA, les chômeurs, sont dans une culpabilité. Le fait d'être sans emploi, c'est perçu comme un échec social. Et moi, je me rendais compte quand j'étais au RSA, il y a le RSA socle et il y a le RSA activité ou chapeau, enfin, comme on veut, on l'appelle comme on veut. On a droit à la prime de Noël. À Noël, de 150 euros. Lorsqu'on est en RSA activité, donc qu'on travaille ne serait-ce que 3 heures dans le mois, on n'y a plus droit. Donc, sur les blogs, à partir du mois de novembre, quand tout le monde commence à s'inquiéter de est-ce que la prime va tomber ou pas, on commence à voir que elle tombera, oui, mais pour ceux qui ont le socle, donc qui ne travaillent pas du tout, en revanche, ceux qui auront à travailler 3 pauvres heures dans le mois n'auront pas la prime pour Noël. Donc, on crée entre des personnes qui sont quand même dans des situations semblables. On crée une division entre eux. Et ensuite, il y a celui d'au-dessus qui va toucher un peu plus parce qu'il est au chômage, donc lui n'a pas droit à la prime de Noël. Il n'a pas droit non plus, à Paris en tout cas, au transport gratuit. Donc il va en vouloir à celui qui est au RSA, qui n'a même pas bossé autant que lui, puisqu'il n'a même pas d'allocation chômage. Et après, il y a au-dessus, il y a celui qui va toucher le SMIC, qui va gagner peut-être un peu plus que celui qui est au chômage, mais qui va travailler 40 heures par semaine, qui va donc en vouloir aux chômeurs de rien foutre. Et donc, en fait, petit à petit, je me rendais compte comme ça, au sein de gens qui sont tous dans une certaine précarité, ou en tout cas qui sont quand même très mal lotis dans cette société, comment le système a réussi, en plus de tout ce que vous disiez à l'instant, de créer une division, mais réelle et énorme, entre ces personnes qui sont finalement plus ou moins logées à la même enseigne. Et au-delà de ça, sachant que 50% de la population gagne moins de 1500 euros par mois, et que récemment, une étude a montré qu'il fallait un minimum de 1400 euros Paris-Province, pour subvenir convenablement, sans faire de grandes folies, à ses besoins, ça montre quand même qu'il y a 50% de la population qui est logée exactement à la même enseigne et pourtant qui, au sein de cette enseigne-là, est constamment à en vouloir à celui qui a un tout petit peu moins. Parce que, et c'est tout à fait légitime, c'est-à-dire que moi, la première, si je travaille quelques heures et que j'ai plus droit à la prime de Noël, je vais être dégoûtée et en vouloir à celui qui a rien foutu. Enfin, et c'est ça, c'est cette culture du travail, le travail comme religion, comme dogme, qui en plus culpabilise l'individu et lui fait en vouloir à son prochain.
Moi, chômeur de la République, je fais fonctionner la justice de manière indépendante. En effet, je n'attends rien d'elle. Je la laisse faire son travail, tranquillement, puisqu'elle en a. Je n'ai aucun droit sur elle, juste quelques devoirs. Alors, je me contente de lui ressembler. À défaut d'être demandé, je suis demandeur. Je suis parfois bafoué, souvent manipulé, de temps en temps recherché, mais jamais saisi. Moi, chômeur de la République, je fais en sorte que mon comportement soit en chaque instant exemplaire, puisque je ne m'actualise chaque fois, mais en double exemplaire, sur un site en tant qu'exemplaire numéroté et invendu. Je rends des comptes que je ne compte plus, je donne des entretiens à défaut de m'entretenir, et des justificatifs pour éviter de perdre celui d'un domicile. Moi, chômeur de la République, je ne cumule pas mes mandats pour me consacrer pleinement à ma tâche. Je cumule juste mes dettes, mon stress et la détresse de tous les autres non mandatés qui font tâche.
D'ailleurs, cette idée d'assistanat, elle a émergé, je crois, au début des années 2000, lorsqu'on a eu une droitisation des débats sociaux. C'était l'idée quand même d'exporter un peu le modèle social anglo-saxon, le modèle social résiduel des anglo-saxons, qui a une base idéologique, voire religieuse, totalement inverse à la nôtre, à savoir que les agences ANPE, entre guillemets, en Grande-Bretagne, c'est, vous êtes au chômage, mais non, votre travail en tant que chômeur, vous avez un travail en tant que chômeur, c'est de retrouver un emploi. Ouais. Et donc, vous avez une injonction à retrouver un emploi parce qu'il y a la culpabilisation du non-travail qui est à ce point prégnante, notamment dans le protestantisme, qui fait que d'emblée, il faut mieux s'estimer heureux d'avoir un travail, n'importe quel travail, plutôt que dans la situation miséreuse au niveau humain. Les droits sont vraiment subordonnés d'une façon impérieuse au devoir. Ouais. Et le devoir, c'est de faire la démonstration permanente de son utilité sociale, de retrouver un boulot qui t'aide payé 8 dollars de l'heure, quoi, etc.
D'être actif, ouais.
Voilà. Ce qu'on n'a pas, d'ailleurs, c'était pas l'univers de Keynes qui disait j'estime que dans un monde capitalistique, à partir du moment où un employeur a besoin d'un employé et qu'il n'en a plus besoin et qu'il le jette, la société doit s'acquitter normalement d'un dénommagement légitime. On n'en est pas là. C'était Keynes, dans les années 40, lettre écrite à mes petits-enfants. Et donc, il y a eu cette tentative de renverser un peu les paradigmes de la signification de l'aide sociale. Ça devenait presque une dispensation, presque gracieuse, sans contrepartie de travail, alors que c'est un droit, sachant l'intermittence naturelle dans le monde du travail, sachant l'évolution actuelle du monde du travail, où on a une résorption générale du volume de travail, et que tous les emplois qui sont d'ailleurs créés dans le monde anglo-saxon sont des petits boulots, ne sont pas les emplois très qualifiés, sauf dans des secteurs vraiment très, très éthérés, quoi, au haut de la pyramide professionnelle, quoi. Et je pense que ça, on le ressent, ça travaille les esprits, parce que bien évidemment, combien de forces politiques aimeraient en finir avec cette dépense sociale somptuaire, à leurs yeux, improductive, qu'on appelle les minima sociaux et qu'on appelle l'assurance chômage, quoi. Donc,
et au-delà de ça, au chômage, lorsqu'on est indemnisé, on a quand même de toute façon l'obligation de retrouver un emploi, puisqu'il y a quand même une pression réelle de radiation. Dans le cas où on refuse certains emplois qui, pour la plupart, sont hors sujet par rapport à nos qualifications ou nos envies, pour ne pas parler de rêve, puisque le rêve dans cette société n'a pas sa place. Et donc, il y a cette pression de retrouver un emploi. Et pour le RSA, qui est souvent remis en question, à se demander est-ce que finalement, les bénéficiaires ne devraient pas faire en échange, en contrepartie, un travail, quel qu'il soit, d'aide en ville, en société. Enfin, il y a toujours ce besoin de ne pas donner de l'argent pour rien. Cette sensation qu'on donne de l'argent pour rien et qu'on assiste. Et ça, c'est une idéologie, comme vous le disiez, parce que ça remonte à Saint Paul, qui estimait que on ne mérite pas de pain lorsqu'on ne travaille pas. C'est tout. Et donc, on est sur une société qui est quand même basée dans des croyances judéo-chrétiennes et pour qui le travail est la première utilité de l'homme. Donc dès qu'on pourra dépasser cette pensée-là et aller vers des choses plus créatives, vers l'humain est beaucoup plus intéressant que ça, que ce à quoi on le réduit aujourd'hui, à ses qualifications, à son emploi, à ses 35 heures. Et donc aller vers des richesses humaines, d'où l'intérêt de, par exemple, le revenu de base, qui devient aujourd'hui au cœur de pas mal de débats, et j'espère qu'il ne sera pas repris en fonction des politiques qui pourront le reprendre, à mauvais escient, parce que c'est une idée géniale, et que je pense qu'elle peut aider à ce que notre société se façonne autrement. Mais pour ça, il faut vraiment que les mentalités changent.
Le RMI était un pas à l'époque.
À l'origine, c'est un revenu inconditionnel, ce que le RSA n'est plus.
Le RMI était... Mais après, il fallait une contrepartie en termes de retrouver un emploi. Ils l'ont appelé revenu minimum d'insertion. Ils ne pouvaient pas l'appeler revenu minimum d'existence. C'est-à-dire que là, on aurait eu des gens qui auraient réagi en disant qu'on était en train de rémunérer l'oisiveté, quoi.
Ça, c'est partir du principe que l'humain est un oisif, alors que beaucoup de sociologues ont quand même prouvé que la nature profonde de l'humain est créative, est active.
Ah oui.
L'humain n'est pas léthargique. Donc c'est cette société de l'emploi, de métiers qui ne sont pas intéressants, qui rend l'individu plus à même d'aller sur son Facebook pendant ses heures de bureau ou d'aller se distraire comme il le pourra et avec avec beaucoup de légitimité, parce que c'est des métiers d'ennui. Et donc l'oisiveté, à mon sens, n'existe pas. Simplement, aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de tellement inaccessible et c'est tellement un luxe d'avoir du temps libre qu'on peut imaginer que oui, peut-être dans les premiers 6 mois où on aurait la possibilité de subvenir à nos besoins sans travailler, on aurait une première réaction qui serait celle de l'oisiveté, mais je ne crois pas qu'elle puisse perdurer.
Présentez-vous, s'il vous plaît. lui lâche le réalisateur de pénombre et sombre pénombre en allumant sa caméra. Son premier et unique court-métrage en ligne depuis 6 mois sur YouTube. 500 vues, 2 j'aime, aucun commentaire. Ce coup-ci, elle auditionne pour le rôle d'une jeune femme, 1m70, menue, 20, 25 ans, blonde ou châtain clair, qui jouera une serveuse travaillant au noir et qui doit être disponible pendant les 3 semaines de tournage, même si elle n'est appelée que 2 jours. La figurante fait une entrée en fanfare. Elle porte du blush en intraveineuse et croit en elle comme jamais. Sur le chemin, elle n'a touché aucune ligne des pavés des trottoirs de gauche. Elle a dévalé tous les escalators du métro en commençant par le pied droit. Et elle a vérifié sur son téléphone le passage de l'heure à 11h11 en passant la porte de l'audition. En 2 mots, enfin 6 exactement, elle est dans d'excellentes conditions. Le réalisateur, plutôt playboy, est accompagné du directeur de casting à sa droite, un grand moustachu, et d'une fille au son à sa gauche. Une étudiante, probablement. Elle fait très jeune, porte un tas de bijoux style afghan et des tatouages sur ses avant-bras. L'actrice de complément les regarde. Elle pense au passé immédiat, au futur imminent, au présent qui passe, et elle réfléchit. Elle cherche la présentation idéale. Elle cherche la meilleure recette, la recette mystère, pour rester mystérieuse. La recette de ne rien dire et d'être tout à la fois. Permettre à ces marionnettistes de projeter tranquillement leurs fantasmes sur un corps, sain et sans esprit de préférence, sur une personne sans personnalité, rester lisse, malléable, mais surtout heureuse de l'être. Proposer un instrument avant dans lequel, qui veut, souffle les accords souhaités, ou un instrument à piston dans l'idéal. Présenter un pantin accessoire avec de la ficelle et du papier qui s'anime uniquement par leur désir et qui n'oublie jamais que chez nous, à chaque instant, c'est jour de fête. Il s'agirait de dire « Bonjour, je suis une poupée vide, mais à vous de me rembourrer ». Elle cherche l'adjectif qualificatif bon marché qu'elle va s'attribuer ce jour. Elle cherche en elle la comédienne torturée, celle qui veut s'autoriser à être ridicule. Ridicule ? Comment ? Eh bien, puisque le ridicule ne tue pas et que ce qui ne tue pas rend plus fort, être ridicule rend plus fort aussi. Comme ça ?
C'est un livre qui vous a mis beaucoup de temps à écrire, non ?
Non, pas tant que ça, en fait.
J'ai toujours écrit ?
Oui, j'ai toujours écrit.
Ouais, ouais.
Après, il y a un moment dans la vie où j'avais vraiment plus du tout d'argent, donc pas les moyens de peindre, ce qui est ma première activité. Et donc, pour assouvir ce besoin d'expression vitale, je me suis mise à prendre l'écriture bien plus au sérieux, parce que c'est quand même la discipline la moins onéreuse qui soit. Donc, j'ai commencé à écrire beaucoup plus qu'avant et à prendre ça un petit peu plus au sérieux, à soumettre des textes. Et bizarrement, alors que c'est la discipline...
À les soumettre à des amis pour des lectures ?
Non, à des journaux directement.
Des, journaux, ouais.
des journalistes, enfin des personnes du métier. C'est-à-dire que j'ai tout de suite vu que je misais aucun jeton sur cette activité-là. Je pensais pas que je savais écrire à la base. J'écrivais réellement pour me faire du bien, pas pour être lue. Et étant donné les retours, j'ai commencé à y croire plus. Et donc là, je me suis lâchée dans tout ce que j'avais l'impression d'avoir ingurgité pendant des années. Donc ce livre, en réalité, c'est 30 ans de réflexion. Mais derrière, c'est 3 ans d'écriture. Même s'il y a des phrases qui ont été écrites il y a 10 ans, parce que ça fait 10 ans que j'écris des petites phrases à droite à gauche. Donc il y a quelques phrases qui sont très vieilles. Mais après, toute la mise en place, le fil s'est tenu ces 3 dernières. En fait, sur 1 an et demi, on va dire.
D'accord.
Et après, j'ai eu 1 an et demi à essayer de le publié et donc à le retravailler. Et par exemple, le fait que le personnage s'appelle Je, ça c'est plus récent. Le livre était déjà écrit à la première personne, ensuite je l'ai écrit à la troisième personne, et après je l'ai écrit donc comme ceci. Ça c'était il y a 1 an. Donc il y a eu des mutations. Ce livre a eu, je sais pas, une 30aine de versions avant. Moi, chômeur de la République, mon éditeur, à un moment, voulait qu'on l'appelle ainsi. Mais moi, j'ai l'impression de faire de la publicité mensongère parce que ce n'est pas un livre sur le chômage. Il répond quand même au discours de François Hollande en 2012, moi, président de la République. Depuis 2012, énormément de politiques ont pour... Enfin, je ne sais pas, ils se sont tous mis à faire des anaphores, vous ferez attention. Quel que soit le parti aujourd'hui, et, mais particulièrement le PS, quel que soit le politique qui soit en train de parler, il y a ce goût pour l'anaphore qui... Et donc j'ai juste voulu le reprendre ça quand même, parce qu'il me semble que c'est d'actualité l'anaphore. Hmm. Voilà, on répète, on répète, on répète, et peut-être que vous...
Oui, c'est comme une scansion, un peu comme à l'ancienne.
Oui, bien sûr, mais ça a une figure de style très ancienne, mais après, là, elle a été exploitée, surexploitée, et peut-être un peu usée quand même. Oui. L'anaphore devient fatigante parfois.
We'll be right back.
Il y a l'intuition d'un prolongement de ce livre ou d'une autre œuvre.
Oui, j'ai une suite que je suis en train de finir, mais là, ce sera Jeu de l'intime. En fait, j'ai écrit plein de choses et le sujet social de l'emploi a pris le dessus et s'est imposé comme la priorité à publier. Voilà, il fallait absolument que ce soit ce sujet avant un autre. Après, j'ai envie de raconter d'autres histoires. Parce que ce n'est pas une histoire, justement, que je me suis racontée, c'est du réel. Mais en tant qu'auteur, j'aime écrire, donc j'ai envie de parler de rêves, d'amour, de plein d'autres choses. Et je me suis retrouvée même dans ma plume à subir le système social qui a fait qu'il s'impose parmi tous les autres sujets qui peuvent me passionner dans l'écriture, comme le premier sujet dont il fallait que je parle de façon urgente, parce que c'est devenu une nécessité d'auteur, de me dire je ne peux pas aujourd'hui ne pas parler de ça avant tout, parce que c'est, il me semble, la chose la plus grave, la plus importante et la plus d'actualité qui soit, et pour l'avoir vécu dans une certaine mesure, c'est un devoir. J'ai vécu l'écriture de ce livre comme un devoir. Après, j'espère pouvoir écrire donc un prolongement qui sera peut-être un peu plus joyeux, parce que je suis pas sûre que ce soit le livre le plus joyeux qui soit.
Si.
Mais j'ai des personnes qui me disent que c'est pessimiste. Je crois que la société est pessimiste.
Moi, optimiste, pessimiste, je sais pas ce que ça. Voilà, je peux. Alors peut-être qu'aujourd'hui, les éditeurs ont besoin de vendre de ce qu'ils appellent du rêve, de l'évasion, ce que le lecteur attend. C'était des éditeurs en général qui de plus en plus publient des ouvrages qu'ils n'apprécient pas, qu'ils sont incapables de défendre, mais dont ils ont la certitude qu'ils seront lus. C'est pas le cas de l'esprit frappeur. Moi, c'est un éditeur qui doit assumer pleinement ses choix et défendre le bouquin. Donc, ce qui est quand même rare chez les éditeurs
c'est
aujourd'hui.
Vrai que c'est rare,
parce que moi, j'ai eu des éditeurs qui ont dit, tu sais, moi, j'édite pas les meilleurs trucs aujourd'hui. Hein. J'édite plutôt des belles merdes, mais qui vont me faire vivre. Hein.
Ah, mais ça, on me l'a dit clairement. Bien, mais après, j'ai jamais eu la prétention de me dire, ah, moi, il m'édite pas alors que je suis bourré de talent. Je me suis juste dit, effectivement, ce livre ne répond pas à une attente de lecteur. Et je l'entends. C'est un peu un ovni, d'ailleurs, en librairie. Il y en a quelques-unes qui l'ont mis en sociologie, d'autres en roman. Donc, il a déjà un problème de
classification.
Ouais. Il subit son propre sort. C'est-à-dire que tout le propos, c'est les cases. Et en tant que livre, déjà, il est inclassable. Donc, je me dis, c'est plutôt cool. Mais le problème des éditeurs, c'est qu'ils ne savaient pas où le classer, puisque ce n'est pas un roman. Et quand je suis allée voir L'Esprit frappeur, il m'a dit, mais pour moi, c'est un roman.
On y revient, c'est comme les gens qui ont trop de casquettes, comme on dit.
Oui, voilà, c'est toujours la même chose. Mais c'est comme quoi ce problème, il est infiltré dans tout. Et dès que je passe quelque part et que je pénètre un peu les coulisses, hop, je vois les cases, le jeu de loi, la classification, la casquette. On est constamment cloisonné à des choses très réductrices.
Oui, on va dire, mais non, t'es écrivain, puis tu peins, non, mais on peut pas tout faire, écoute, c'est pas possible, il faut bien choisir une excellence pour s'y vouer corps et âme, etc. On peut pas en cumuler plusieurs, ça n'existe point,
Ça n'existe pas. Et là, ça aurait été de dénaturer le livre que de lui donner une forme plus romanesque, d'où le jeu en parallèle qui se joue. Mais ça, c'est grâce aussi à... J'ai quand même eu dans le parcours des éditeurs de grandes maisons qui ont été très, très présents, de très bons conseils. Mm-hmm. Et donc, qui m'ont expliqué ce qu'ils attendaient d'un héros romanesque. Et donc, c'est quand même Bertrand Pis d'Actes Sud qui m'a fait comprendre que peut-être ce livre pouvait questionner également sur l'autofiction, en quoi le vécu peut-il ou non accéder à la dimension d'autofiction. Et j'ai trouvé ça important dans cette époque dans laquelle on est tous à s'exhiber plus ou moins, à mettre notre jeu, un faux jeu encore, en avant sur les réseaux sociaux ou virtuellement, alors qu'en réalité, un vécu n'est pas suffisant. Il faut lui injecter de l'artifice, il faut lui injecter de l'émotion, il faut lui injecter du faux. Et donc, c'est tout le propos de ce personnage. J'ai rien injecté comme artifice et il n'a pas la dimension d'un personnage.
D'ailleurs, c'est très curieux parce que je le mot d'autofiction, enfin, je sais pas, on va pas demander à Balzac qu'il a fait de l'autofiction. Pourtant, par rapport à ce qu'on s'imaginait d'autofiction, lui, fatalement, il a dû en faire. Mais bon, on va pas dire Balzac a fait de l'autofiction. Oh, ben non.
Non, ce serait trop.
Mais bon, c'est dans le procès de l'imagination. Dans l'imagination, comme l'imagination n'est pas une trace reliée directement à un fait de la vie qui est arrivé, puisque déjà dans le souvenir du fait lui-même, le fait est déjà une forme de composition.
Ouais.
Même lorsqu'on le relate, sans l'écrire ou sans le styliser, sans en faire une matériau littéraire. Mais la mémoire n'est pas traductrice. La mémoire n'est pas réfléchissante. Elle l'est, bien évidemment. Il y a une part de la mémoire qui est créatrice.
Ah, qui est fictionnel.
Qui est fictionnel. Donc,
ouais, ouais. Bah, c'est pour ça qu'on n'a jamais le même récit d'une même histoire. Déjà, on ne voit pas la même chose. Mais oui, la mémoire joue à idéaliser ou à empirer un souvenir. Enfin, on ajoute forcément de l'émotion qui vient donc biaiser la réalité. La réalité en soi n'existe jamais réellement.
Oui, et puis c'est toujours du réel enrichi par le langage.
Le verbe ne pourra jamais atteindre la dimension du réel. Et c'est ça aussi, c'est dans le principe de l'autofiction ou de la fiction. Moi, j'ai l'impression que le réel est toujours plus fort que la fiction. Et là, je me suis retrouvée confrontée à des personnes qui me demandaient une fiction plus forte que mon réel. Et je me suis un petit peu sentie dépassée par quelque chose parce que ça ne coïncidait plus. C'est-à-dire que moi, je trouve le réel beaucoup plus puissant. Les personnages du réel sont énormes. D'ailleurs, c'est ce que je vous disais tout à l'heure hors antenne. Le personnage du prof, Laurent, est un mix de 10 ou 15 profs. Donc c'est un personnage inventé dont chaque trait de caractère est existant chez quelqu'un. Mais il a fallu que je prenne plusieurs personnes pour en faire un qui, dans un roman, est une sorte de carrure de personnage secondaire.
Laurent, c'est le prof de théâtre. Vous émettez un doute que c'est judicieux de suivre ses cours dans la mesure où il n'a pas réussi. Donc,
c'est le principe des profs aussi.
Il y a toujours
la question de se demander pourquoi. Tous ces métiers qui sont autour de l'art, soit le journalisme, le prof, est-ce que ces personnes-là le font par vocation réelle ou est-ce une façon de ne pas être trop loin de ce qui les faisait vibrer ? Donc voilà, un chorégraphe peut-être n'a jamais pu être danseur, je ne sais pas. Je me dis juste qu'il y a chez le prof une sorte de potentielle frustration de ne pas avoir pu être lui-même danseur étoile ou grand comédien ou grand rockstar. Et donc, il se console avec, je crois, une toute petite frustration, mais qu'on aura tous dans un domaine ou un autre. Le prof de dessin, c'est pareil. De se dire, pour moi, pour en vivre, j'ai pas vécu directement de ma plume, de mes pieds de danseur ou de ma musique. J'ai transmis. Voilà, mais c'est tout aussi louable.
Merci Elsa Lévy.
Merci à vous.
Donc je rappelle le titre de l'ouvrage, Jeu de société, c'est à l'esprit frappeur. Empressez-vous de vous le procurer et de le lire. Et donc vous êtes toujours sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3 bande FM. Cette émission des périphériques vous parle se termine. Nous nous retrouvons quant à nous en juin, le troisième mardi du mois. Donc restez à l'écoute, Fréquence Paris Pluriel, 106.3, bande FM. Ciao, ciao.